Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux 30e rencontres de Pétrarque, 4e et avant-dernier rendez-vous ce jeudi. Notre rendez-vous du jour s'inscrit assez logiquement dans la continuité du précédent, puisqu'hier nous faisions le constat que le cadre national était devenu trop étroit pour aborder la question des valeurs. Aujourd'hui, c'est donc à l'échelle du monde que nous allons porter la discussion. Un monde qui a changé depuis la première édition des rencontres. En 1986, le mur de Berlin n'est pas encore tombé. Les tours jumelles du World Trade Center sont debout. L'ennemi est clairement identifié. Il est à l'est si l'on est à l'ouest. Et inversement, l'équilibre des forces repose sur la maîtrise de part et d'autre de l'arme nucléaire. Tous ces repères ont disparu aujourd'hui. La logique des blocs semble s'être diluée dans ce phénomène majeur qu'est la globalisation. Pour reprendre le titre du dernier livre du politologue Bertrand Badi, nous ne sommes plus seuls au monde. Alors nous ne sommes plus seuls au monde, mais nous avons encore un peu de mal à nous y faire. Nous, en tant que Français, Européens, Occidentaux, nous également en tant qu'êtres humains, car la prise de conscience de notre possible finitude face à la crise écologique nous oblige également à repenser notre place parmi le vivant. Alors s'orienter dans un monde en mouvement, c'est donc le thème de cette 4e table ronde, au sein de laquelle nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Bernard Baume et moi-même. Corinne Pelluchon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous enseignez à l'Université de Franche-Comté, enfin, vous enseignez, je devrais dire, c'est au passé, puisque vous allez bientôt rejoindre l'Université de Marne-la-Vallée, c'est bien ça?
C'est exact.
Vous êtes spécialiste de philosophie politique et d'éthique appliquée. Vous avez publié l'an dernier au Seuil les nourritures philosophiques du corps politique, et puis vous signez dans le dictionnaire de la pensée écologique dirigé par Dominique Bourg au PUF, l'article sur le spécisme, antispécisme. Ce sont sans doute des termes dont nous aurons l'occasion de dire quelques mots dans le fil de notre discussion. Discussion que vous allez mener avec Camille Grand. Bonjour.
Bonjour.
Directeur de la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. La FRS qui travaille en particulier sur les questions de défense et de sécurité. Vous êtes, vous, passé par les ministères des Affaires étrangères et de la Défense, et vous avez notamment une expertise sur les questions de désarmement. Et puis, troisième invité de cette table ronde des 30e rencontres de Pétrarque, Patrick Boucheron, bonjour.
Bonjour.
Historien, professeur au Collège de France, vous y êtes le titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e-16e siècle. Votre leçon inaugurale que vous avez prononcée il y a quelques mois, c'était au mois de décembre, je crois, 2015, a été publiée aux éditions Fayard, Ce que peut l'histoire. Vous avez également publié l'an dernier, avec Mathieu Riboulet, aux éditions Verdier, Prendre date. Alors je voudrais d'abord commencer peut-être par un premier tour de table, puisque nous fêtons ces 30 ans des rencontres de Pétrarque. J'aimerais savoir si les uns et les autres, vous seriez d'accord pour dire que le monde de 2016 n'a plus rien à voir avec celui de 1986, Patrick Boucheron.
C'est un des embarras du métier d'historien, c'est que toujours on leur pose la question la première fois. En tout cas, ils sont les premiers à devoir s'exprimer. Oui, bien entendu, et je crois que vous l'avez dit, en 1986, l'idée que le monde puisse non seulement si vite se mettre en mouvement, puisque c'est le titre que vous nous proposez, mais se mettre en mouvement dans un sens qui n'était pas prévu, et vraisemblablement ce qui nous éloigne le plus de ce monde. Mais en même temps, si on avait quelque chose à dire aujourd'hui, et vous avez commencé à le dire, c'est que la prise de conscience de ce que Corinne Pelluchon appelle effectivement le cosmopolitisme contraint, c'est-à-dire le fait que nous sommes embarqués dans un seul et même monde, fait que ce monde-là, il n'est pas radicalement nouveau, puisque c'est le même, d'une certaine manière. C'est le même et que nous en sommes en commun les deux dépositaires. Ça veut dire pas seulement son enveloppe écologique, pas uniquement effectivement la collection d'existants dont nous aurons à parler, puisque au fond, bien au-delà de la définition de l'humain, c'est de l'ensemble, au fond, du monde que nous devons prendre en charge, mais évidemment, ce monde avec son histoire. Donc, d'une certaine manière, c'est bien le fait que les choses changent, au fond, si peu, qui nous pose aussi problème.
Des choses qui changent aussi peu, est-ce que ce serait l'avis et le point de vue du politologue, du géopolitologue que vous êtes, Camille Grand? On pourrait d'ailleurs peut-être finalement dire exactement le contraire de ce que j'ai essayé de dire en introduction, puisqu'on entend beaucoup parler, par exemple aujourd'hui, d'un retour de la guerre froide, c'est-à-dire d'un retour au monde que, dans lequel nous vivions il y a 30 ans.
Alors effectivement, c'est difficile de... Quand on regarde les choses avec, dans le temps court, depuis 86, en fait, on peut évidemment insister sur les ruptures. La fin de l'Union soviétique, ensuite la fin de l'illusion du monde de l'après-guerre froide et de la domination occidentale sur ce monde de l'après-guerre froide. Une des clés qui est souvent utilisée, c'est finalement de se raccrocher à l'histoire et de dire... c'est un retour de la guerre froide auquel nous assistons dans les relations avec la Russie. Quand on ne peut pas faire un débat autour de la situation au Moyen-Orient sans revenir à Sykes-Picot. On voit la place des anniversaires dans la réflexion stratégique. Le succès du livre décrivant les origines de la Première Guerre mondiale, Les Somnambules, est un bon exemple de ça. On sait qu'il a une influence politique dans les débats, par exemple, en Allemagne. Donc on est dans une situation où, effectivement... la tentation, on essaie de se raccrocher à des choses pour comprendre ce monde en mouvement, et où sans doute on se rend compte qu'on ne les comprend qu'à moitié par ces références, et que la réalité c'est qu'on est sans doute entré dans un nouveau cycle, peut-être pas en réalité en 1989, mais peut-être depuis 2001, avec des choses qui viennent beaucoup plus bousculer les équilibres du monde, tel qu'il était, s'était établi, on va dire, dans le temps long, aussi bien sur le terrain idéologique que sur le terrain par exemple, des frontières, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on est peut-être dans un mouvement plus important au cours des dernières années que dans ce qui est dans les décennies qui ont immédiatement suivi la chute du mur de Berlin.
Corinne Peluchon, à quoi vous raccrochez-vous, vous, pour tenter de répondre à cette question ?
Ben moi, je mettrais surtout l'accent sur le fait que c'est la prise de conscience par les individus, voire par les collectivités, des dangers ou des crises qui intensifie notre manière de vivre. Et effectivement, la prise de conscience de la crise écologique, et pas seulement de la crise écologique, mais de ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire du dépassement des capacités de charge de la planète à accueillir justement toutes nos activités humaines si gourmandes en énergie, eh bien ça, c'est une prise de conscience qui est récente et qui souligne avec angoisse une responsabilité particulière aussi aux gens, aux adultes d'aujourd'hui, puisque nous sommes peut-être les premiers à en avoir à ce point conscience et les derniers à pouvoir faire dans les temps, dans les délais, ce qu'il faut pour éviter justement des points de non-retour dont les effets seraient catastrophiques. Et avec cette idée aussi qu'il y a une distance entre ce que nous faisons aujourd'hui dans nos activités, dans nos modes de production et de consommation et les effets, puisque les conséquences se retrouvent plusieurs centaines d'années plus tard. Donc ça, c'est très difficile à concevoir. Déjà que c'est difficile d'être responsable vis-à-vis des autres actuels et par rapport à ce que l'on fait ici et maintenant, c'est encore plus difficile quand, justement, les effets de son action sont dilués dans le temps. Et donc ça crée une sorte de d'angoisse. Et mon dernier mot, c'est qu'on a, je crois, un double mouvement entre à la fois cette prise de conscience salutaire et aussi des innovations de la part des individus, de la part des collectivités, de la société civile, comme on le dit, mais aussi des crispations de ces mêmes individus pour des réponses identitaires, nationalistes, et aussi, peut-être on en parlera, des innovations institutionnelles qui tardent un petit peu pour justement nous permettre de prendre en compte tous ces enjeux importants.
Alors Patrick Boucheron, ce monde dans lequel on vit est quand même en voie de mutation rapide, on assiste en permanence à des innovations dont parlait à l'instant Corinne Peluchon, qui sont souvent inouïes, qu'on a du mal même à assimiler, que dès qu'on a commencé à peine à assimiler, tout de suite il y en a une autre qui arrive et il y a une espèce de perte comme ça de conscience quasiment, on a du mal à trouver prise encore sur les choses bien souvent, c'est-à-dire des mutations très soudaines, aussi soudaines que globales, avec une rapidité inouïe, et souvent effectivement on se tourne vers les historiens pour essayer de se rassurer en inscrivant tout ça dans une histoire longue, une mémoire longue, alors que en fait aujourd'hui il y a une sorte de crise des récits globaux ou de la pensée globale qui fait que aucune pensée ne peut vraiment saisir l'entièreté de ces mutations. Jacques Derrida, dès le début des années 2000, avait cette belle formule. Il disait « Aucun discours traditionnel n'étant en mesure d'interpréter l'ensemble des transformations du monde actuel, il faut avoir recours à une pensée ouverte, indéterminée, aventureuse. » Je crois que c'est un peu ce type de pensée aventureuse que vous essayez de construire vous aussi.
Parce qu'on n'a pas le choix, pour les raisons que vous dites. Et parce que les historiens, évidemment, comme les autres, qui tentent, alors peut-être pas de se raccrocher, avez-vous dit, ou de se rattraper aux branches, et les branches seraient ceux d'une sorte d'arborescence historique qui ferait que le même reviendrait. Mais on sait que non, qu'il ne revient pas, ou alors, s'il fait retour, il a avancé, c'est comme une vrille. Et donc, on est dans un moment du devenir historique qui, de toute façon, nous laisse proprement... désarmé. Lucien Febvre, qui était un historien de la longue durée, un des fondateurs avec Marc Bloch des Annales, parlait de l'outillage mental. Et c'est quelque chose qui était au cœur de l'histoire des mentalités, qui a été un petit peu critiqué. Et puis on peut y revenir aujourd'hui. De quoi s'agit-il ? C'est au fond cette idée de l'outil, qui est très proche aussi des phénoménologies politiques qui nous intéressent, je crois, les uns ou les autres. C'est-à-dire partir des modes d'existence, hein, vraiment de ce que nous vivons. Il ne s'agit pas pour l'instant d'essayer de prôner une autre existence que la nôtre, parce que c'est celle-là à laquelle nous sommes attachés. On a des outils. Et avec les outils, on tente de transformer le monde. Et il arrive, ce sont des moments historiques à la fois inquiétants, mais passionnants, que ces outils se cassent dans nos mains. Voilà. Et que, alors, si l'histoire est simplement le récit un peu décourageant des prisons de longue durée, elle ne nous sert plus à rien. Si l'histoire peut être un récit entraînant, aventureux, avez-vous dit, et ouvert, alors elle peut, comme les autres sciences humaines et sciences sociales, nous réencourager à prendre, au fond, notre destin en main. Mais ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, nous avons à discuter avec Camille Grand et avec Corinne Peluchon à la question, au fond, de cet outillage. Outillage institutionnel, bien entendu, qui est très en deçà de ce qu'il faudrait, mais outillage, j'allais dire, philosophique. C'est-à-dire, nous avons une bibliothèque auquel nous tenons. À quoi se raccrocher lorsque tout tangue, sinon au livre. Mais en même temps, il va bien falloir faire le tri. Parce que, je ne dis pas que dans ces livres, il y en a qui ne nous servent plus à rien, mais en tout cas, nous avons une philosophie de l'existant qui ne correspond plus aux modalités pratiques de ce que doit devenir notre existence. Voilà, c'est pour cela que ce qui pouvait paraître, au fond, lointain ou accessoire, la philosophie, l'histoire, deviennent, j'allais presque dire, vitales.
Alors arrêtons-nous peut-être un instant sur ces outils institutionnels. Camille Grand, les outils institutionnels, ce sont notamment les institutions internationales, les Nations Unies, l'OTAN, ces nouvelles formes d'organisation que sont le G8, le G20, même si le G20, on ne sait plus très bien d'ailleurs si ça existe encore ou pas aujourd'hui, mais en tout cas on a l'impression qu'il y a un très fort conservatisme dans ces institutions qui finalement ont assez peu évolué depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a au moins une réflexion pour accueillir ce qu'est devenu le monde aujourd'hui, ou bien il y a peut-être une résistance ou également une peur et la volonté de se rassurer en gardant les repères tels qu'ils organisent le monde depuis plus d'un demi-siècle?
Alors, les institutions internationales ont un côté dinosaure qui ne disparaît pas, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à s'empiler plutôt qu'à se transformer. Et leur transformation est lente, on le voit aux Nations Unies avec un Conseil de sécurité qui reflète les équilibres du monde en 1945. Trois puissances européennes, donc les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni, ce qui donne lieu depuis 30 ans à des débats, des demandes de la part des Indiens, des Brésiliens pour rejoindre ces institutions de régulation internationale sur les questions de sécurité. Et on n'y arrive pas parce que ça bloque entre les candidats eux-mêmes. C'est à peine mieux pour les institutions économiques. ou prendre en compte le poids de la Chine dans la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international a pris 15 ans et peine à se... Ça fait 2 ans que la Chine a plus de poids de vote au FMI que la Belgique. Donc on est dans ce type de situation.
On pourrait ajouter aussi la question par rapport à l'Organisation mondiale du commerce, alors qui elle aussi a accueilli d'ailleurs la Chine, mais qui peine à avoir une action globale. On voit bien par exemple la multiplication des traités multilatéraux qui sont en concurrence avec ce que pourrait être cette gouvernance économique mondiale.
C'est effectivement ce décalage entre une mondialisation économique, financière et l'absence de mécanismes de régulation globalisés. Donc on tente des régulations régionales avec des succès partagés. Et d'une certaine manière, ce qui est extraordinairement difficile, c'est que les institutions internationales sont à la lumière du reste du politique, c'est-à-dire qu'elles sont en situation de perte de contrôle. On le voit pour l'Union européenne, on le voit pour d'autres organisations, c'est-à-dire au fond des politiques assez désarmées face aux évolutions de la technologie, face aux évolutions de l'économie, face aux risques environnementaux et même face aux risques stratégiques qui semblaient être l'apanage de l'État en quelque sorte, qui ne semble pas en mesure de prendre complètement en compte ces nouveaux risques. Pour prendre les sujets que je connais le mieux dans le domaine stratégique, finalement l'émergence de toutes ces menaces non étatiques face auxquelles les organisations internationales sont en réalité assez désarmées, et quand elles agissent selon des modalités et une grammaire qui correspond pas forcément à la nature du risque. Il est difficile d'être en guerre contre le terrorisme et l'objectif d'une telle guerre est éminemment complexe à atteindre et même à définir.
C'est aussi ce que vous vouliez dire tout à l'heure, Corinne Pelluchon, quand vous évoquiez la faiblesse des institutions.
Oui, disons que les institutions, je vais me situer là à l'échelle plus nationale qu'internationale, mais évidemment c'est important aussi, l'échelle internationale, les institutions sont toujours nées dans un certain contexte. Et ce contexte, par exemple, pour prendre la démocratie représentative, eh bien, c'était un contexte démographique, économique, écologique tellement différent du nôtre que forcément, si on veut que cette démocratie représentative tienne encore ses promesses, à savoir justement permettre de saisir ce qui peut être les intérêts des électeurs et même le bien commun, eh bien, il faut peut-être les adapter afin que justement les politiques ne soient pas seulement court-termistes, ne se limitent pas à des choses présentistes, etc. Et au niveau international, c'est vrai qu'il y a encore les institutions onusiennes faites pour la guerre, eh bien, ne peuvent pas forcément prendre en charge les questions écologiques actuelles et même la question d'immigration et de manière générale les questions qui touchent notre survie. Et pas seulement liées à la guerre, mais la survie de tout le monde, où il n'y a peut-être ni vainqueur ni vaincu, même si c'est les pauvres sont d'abord frappés, en tout cas et de manière plus massive que les pays riches. Mais donc, du coup, il y a des ajustements, et peut-être aussi à travailler sur ce qui me semble le point faible de toutes les politiques aujourd'hui, et c'est leur passage de la théorie à la pratique. Pour les institutions, et même, par exemple, on l'a vu avec la COP21, c'est très bien, il y a eu un progrès, si on veut, au niveau théorique, mais la question de la motivation, de l'incitation à passer à un modèle moins gourmand en énergie fossile, eh bien, cette motivation, elle n'existe pas. Tant au niveau de ce qui peut motiver les entreprises, les individus, bref, en France, par exemple, la taxe carbone avait été oubliée. Donc, on est quand même plus dans des modèles un petit peu où ce passage de la théorie à la pratique n'est pas fait. Et enfin, pour rebondir par rapport à ce que disait Patrick Bouchon tout à l'heure, il y a aujourd'hui, c'est peut-être la bonne nouvelle de cette situation, c'est que je crois qu'il est important d'articuler les décisions politiques, nationales et internationales, à une question fondamentale, classique, de la philosophie classique, qu'on appelait autrefois le bien-vivre, alors de manière un petit peu plus modeste, on va l'appeler ce que nous voulons être, ou ce que nous ne voulons pas être, ou articuler les décisions à une réflexion d'essence philosophique, anthropologique aussi, concernant ce que nous ne voulons pas devenir ou laisser faire. Et aujourd'hui, dans notre monde où les injustices se vivent de manière indécente et décomplexée, il y a peut-être une réflexion sur ce qui est extrême, une réflexion sur aussi ce que nous ne voulons pas en termes de progrès, en tout cas d'application technologique, et ce que nous ne voulons pas aussi en termes de situations qui contredisent les idéaux auxquels nous tenons. Et ici, il y a quelque chose qui est actuellement à la fois fondamental et si fragile, mais ça l'a toujours été. Et l'historien me le confirmera, c'est la démocratie, qui est certes toujours dynamique, n'est pas fixe, c'est donc un idéal toujours à réinventer, mais qui est fragile, fragilisé aujourd'hui. Et c'est vrai que pourquoi la question du réchauffement climatique est importante ? Elle est importante en elle-même, ça touche notre survie, mais parce que, avec les conséquences que cela peut avoir, notamment en termes de migration, de flux migratoires, etc., on voit que et cela peut entamer aussi la capacité des démocraties à se maintenir, puisque les réponses peuvent être à la fois autoritaires pour maintenir les ressources, et aussi parce que, on le voit déjà, l'Europe a bien du mal à répondre au flux migratoire. Donc quand il y aura encore plus de migrants, eh bien on voit bien que ça met à la fois, ça exige de nous que nous redéfinissions ce qui est important, ce à quoi nous tenons, et que aussi nous construisions de manière plus volontariste des garde-fous. Donc, et là, je crois que ça, c'est quand même aussi une chance, c'est qu'effectivement, la réflexion philosophique, la réflexion historique, les sciences humaines et sociales, comme on disait, eh bien, sont invitées à la table des négociations et devraient inspirer un certain nombre d'outils. Et je terminerai par ça pour dire quand même qu'il y a des outils tout à fait excellents pour la reconstruction de la démocratie délibérative, pour ce passage d'une démocratie représentative que tout le monde critique, mais qui en quand même est peut-être nécessaire, mais qui doit évoluer vers quelque chose de plus à même de saisir les enjeux actuels. Il y a des outils théoriques pour penser aussi des institutions prenant en charge de manière efficace la transition environnementale. Mais tout ça, il y a un écart entre cette créativité intellectuelle et, il faut le reconnaître, des décideurs, ou je vais employer ce terme un peu galvaudé, mais tant pis, les élites, qui peut-être tardent à faire passer dans les faits toutes ces théories. Et donc ça, c'est peut-être, alors là, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que peut-être que vous êtes là, les médias, pour justement opérer aussi ce passage.
Oui. Alors Patrick Boucheron, Corinne Pelluchon a une très belle formule quand elle a dit que la question c'est celle d'une survie et de poser l'enjeu ce qu'on veut être ou ce qu'on ne veut pas être. Ça fait penser finalement, le télescopage vous allez voir est un peu violent, à un passage du livre de Samuel Huntington qui s'appelait Le choc des civilisations, qui est un livre célèbre, où il dit, je le cite, ça remonte maintenant il y a quelques années, hein, c'était la fin des années 90, « Les peuples et les nations s'efforcent de répondre à la question fondamentale entre toutes pour les humains, qui sommes-nous ? On sait qui on est seulement si on sait qui on n'est pas, et bien souvent si on sait contre qui on est. » Une des choses qui se passe en ce moment, dans ce monde en mouvement, c'est que le mouvement en question est parfois un mouvement de troupes, qu'il y a un peu partout une sorte d'angoisse et de violence qui circule sans frontières, sans patrie ni frontières. Vous-même, vous aviez ouvert votre leçon inaugurale au Collège de France par un témoignage sur un retour à la République après les attentats du 13 novembre, etc. Et cette question, finalement, du mouvement qui est un mouvement de troupes s'impose à toutes et à tous. Le ministre des Affaires étrangères vient de publier un livre qui s'appelle « Qui est l'ennemi ?» Qui est l'ennemi ? Et cette question de l'ennemi, en fait, qu'on le veuille ou non, est une des questions qui se pose aujourd'hui dans ce monde en mouvement pour le meilleur et pour le pire. Patrick Boucheron.
Oui, sans doute. Sans doute parce que, pour les raisons... Alors, c'est difficile parce que, en tout cas, si on n'a pas d'ennemis, on a des adversaires, y compris dans le champ intellectuel, et que, au fond, on s'affaiblit toujours à ne pas prendre la mesure de la force de l'adversaire. En particulier Huntington, d'ailleurs, qui a été davantage méprisé que véritablement analysé. Pas compris pour ce qu'il était, c'est-à-dire non pas une description, mais une aide à la décision. C'est un livre qui entendait, au fond, produire un résultat, avoir une action. Et de fait, il l'a eu. Parce que toute découpe du monde, comme ils tentent de le faire, il y a plusieurs civilisations, etc., est en réalité non pas une description de ce monde, mais une tentative de le transformer en fonction, effectivement, de lignes de force et de lignes de fuite. Et c'est cela, ce livre, qui, effectivement, fait une géographie de l'inimitié. On pense évidemment au livre récent d'Achille Mbembe, Politique de l'inimitié, qui montre bien, au fond, comment c'est profondément dans le corps politique, dirait Corinne Peluchon, c'est-à-dire, au fond, à la fois ressenti et pensé, y compris dans la philosophie politique, et y compris dans la philosophie politique que l'on peut considérer la plus progressiste, ce thème de l'ennemi. C'est-à-dire comment, au fond, poursuite, j'allais dire, du nazisme méthodologique par d'autres moyens, c'est-à-dire de Carl Schmitt, dans tout le corps doctrinal de la philosophie politique, y compris celle qui se pense de gauche, comment cette conception de l'ennemi a, d'une certaine manière, non seulement paralysé, mais à mon avis véritablement tétanisé l'ensemble de la pensée, au point de nous mettre dans ce que Achille Mbembe appelle l'enclos identitaire, c'est-à-dire l'incapacité dans laquelle nous sommes à comprendre au fond une politique commune en dehors de sa une réduction. Et c'est ça qui est terrible, effectivement, que les sociétés occidentales, modernes, attribuaient aux colonisés.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que hier, par exemple, autour de cette table, c'était sur la France et ses valeurs, comme vous savez, le débat d'hier, et tout le monde était à peu près d'accord pour dire que quelque chose qui s'était vraiment effondré, c'était une sorte de prétention sanglante à l'universel et à l'universalisme. Ce qui est intéressant, par exemple, dans le livre d'Huntington, c'est que il dit la même chose. C'est-à-dire que Huntington, on croit que c'est quelqu'un qui a dit il faut répandre les valeurs américaines dans le monde entier. Pas du tout. Il a dit, au contraire, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que l'Occident continue à se vivre comme universel. Donc lui a posé la question de l'ennemi sur le fond d'une espèce de crise totale de l'universel et l'universel en tant qu'il se pensait occidental. Alors que vous, Patrick Boucheron, envers et contre tout, vous voulez maintenir quand même ce que vous appelez le pari de l'universel.
Oui, avec Gérard Lanclus, c'est lui qui parle de pari de l'universel, c'est-à-dire au fond, comment faire que cette idée-là, ou celle de progrès qui vous occupait il y a quelque temps, ne soit pas compromise, au fond, par le devenir de nos sociétés historiques, qui est moins, parce que c'est ça, c'est la compromission de ces belles idées, qui est moins... au fond, confronté à la fragilité de la démocratie, parce que ça, effectivement, vous avez raison de dire qu'on est habitué, mais à la fatigue démocratique. Et ça, on sait bien que les sociétés peuvent devenir violentes par désœuvrement ou par fatigue. Et là, on rentre dans la zone dangereuse.
Camille Grand.
Il y a une question qui se pose là-dessus, sur notamment la manière d'aborder tout ça. Et il y a une phrase de Raymond Aron que je n'aime pas, mais qui, parce qu'elle me semble pas adaptée au monde d'aujourd'hui. Quand Raymond Aron dit, à propos de penser la guerre, penser la stratégie, il est nécessaire d'élever une barrière entre son intelligence et son humanité. Cette image-là, qui est finalement très adaptée à l'âge nucléaire par certains côtés, en même temps, me semble mal adapté au monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est précisément quand on élève cette barrière qu'on ne perçoit pas l'ampleur d'un problème comme la question des réfugiés. Dont moi, j'ai par exemple pris conscience dans un camp de réfugiés syriens en Jordanie, quand on voit que la troisième ville de Jordanie, c'est le camp de Zardari aujourd'hui, quand on parle avec les gens, tout d'un coup, ça cesse d'être un problème théorique que l'Union européenne, les institutions internationales soient incapables de prendre en compte ce type de problème. Et en face, on a le problème dans nos démocraties. Et moi, je suis très frappé de voir la fin, c'était un petit commentaire après le Brexit qui était dans la presse britannique, qui était de dire c'est la fin de la démocratie fondée sur les faits, the end of fact-based democracy, qui était une sorte de manière de dire, au fond, nos démocraties sont de plus en plus incapables d'aborder les problèmes Et c'est un écho à ce que disait Corinne Pelluchon tout à l'heure sur la difficulté de faire ça. La démocratie représentative est mal à l'aise pour aborder les problèmes en fonction des faits. On voit qu'on a un des deux candidats à la présidentielle américaine qui est climato-sceptique et qui ne s'en cache pas, qui dit des énormités et qui ne s'en cache pas. On voit que le nouveau ministre des Affaires étrangères britannique a fait une campagne remplie de contre-vérités et va négocier maintenant les termes de ce Brexit. Donc on est dans cette situation très compliquée où, au fond, on doit mettre notre intelligence et notre humanité en mouvement constant pour répondre à ces défis, finalement assez nouveaux. On peut toujours discuter de la nouveauté, mais très difficile, et où on a de plus en plus de mal dans nos sociétés démocratiques à se mettre en mouvement compte tenu de ces évolutions de nos modes de production du politique en réalité.
Est-ce que d'ailleurs la mise en mouvement aujourd'hui à laquelle aspire un certain nombre de personnes, Camille Grand, elle n'est pas avant tout une sorte de retour en arrière, voire de démondialisation? Certains intellectuels commencent un petit peu à évoquer ce terme, c'est-à-dire que face à ces changements importants auxquels nous sommes confrontés, nous aurions le souci de revenir à nos anciens repères, face aussi donc à cette question des réfugiés, qui est vraiment une question extrêmement importante. Il n'y a jamais eu autant de réfugiés, de personnes déplacées dans le monde qu'en 2015. J'ai simplement là les chiffres du rapport annuel du HCR pour le mois de juin. C'est un être humain sur 113 qui est soit réfugié, soit déplacé dans le monde. Ce ne sont pas seulement les institutions, disons, qui sont inadaptées à ce monde, c'est peut-être aussi les aspirations individuelles qui considèrent que le monde d'avant était peut-être mieux, qu'on aimerait y revenir un peu plus, parce qu'il était peut-être plus confortable.
Alors, face à la mondialisation, il y a effectivement la tentation de se dire, au fond, l'État-nation contre l'Union européenne, les frontières contre l'ouverture des frontières, la réglementation nationale contre l'idée d'un encadrement supranational apparaissent comme des solutions tentantes, confortables. Et toute la difficulté pour le politique, c'est effectivement de se dire comment est-ce que j'arrive à répondre à cette aspiration qui peut... Il y a des moyens d'y répondre par des formes de subsidiarité, tout en prenant en compte la réalité d'un monde globalisé où, évidemment, ces réponses sont insuffisantes, étroites et souvent étriquées.
Est-ce que ces aspirations-là ne sont pas des aspirations universelles? Je pose la question et à Corinne Pelluchon, pardonnez-moi, et à Patrick Boucheron. Corinne,
oui.
Pelluchon.
Alors, je crois que la question de l'universel est fondamentale. Et la question, c'est de savoir de quel universalisme on parle, car il a changé. C'est vrai que l'universalisme surplombant des Lumières, même si, évidemment, les Lumières sont une période fondamentale, mais l'universalisme n'est plus aujourd'hui lié à un décryptage rationnel des choses, ce n'est pas le bien, le mal ne sont pas comme ça écrits dans le ciel des idées. Et ils ne sont pas non plus détenus par une civilisation comme cela qu'il imposerait aux autres. Mais il y a quand même, cela n'enlève pas de la pertinence à la notion d'universalisme, surtout quand on essaie de le penser à partir de quelque chose qui est commun à tous les vivants, je dirais. Et quand je dis tous les vivants, évidemment, j'invite à un décentrement, en tout cas à la prise en considération des intérêts des autres vivants, en particulier des animaux, mais je ne dis pas que les hommes, les humains, je n'efface pas la spécificité des humains et la responsabilité particulière qu'ils ont à l'égard des autres vivants et de la planète. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est cette question, quel universalisme? Et un universalisme qui peut d'ailleurs être en équilibre libre avec l'historicité, comme le disait très bien Ricoeur, c'était sa phrase. Il n'y a pas d'un côté le relativisme, tout vaut et rien ne vaut, et de l'autre côté le cannibalisme et les droits de l'homme, pour parler comme mon maître Léo Strauss, ou d'un autre côté un universalisme surplombant et arrogant dont la France aurait été une sorte de reine. Non, aujourd'hui c'est différent, mais il ne faut pas jeter le bébé clos du bain. De même, pareil avec la démocratie représentative, pareil avec l'humanisme. Moi, je pense que l'humanisme, c'est fondamental. C'est vraiment l'idée que l'homme prend en charge son destin. Il ne prend pas tout, il ne maîtrise pas tout, mais il prend en charge son destin. Prendre en charge son destin, ça ne veut pas dire aujourd'hui vouloir exploiter, coloniser, mais ça veut dire garantir aux notions d'autonomie, de responsabilité et même de liberté, eh bien, des institutions et un cadre leur permettant d'exister. Car l'autonomie, c'est quand même quelque chose qui s'apprend, qui s'acquiert, qui demande des institutions aussi. Donc tout cela, voilà, je crois que c'est pas parce qu'il y a une remise en question d'un certain nombre de frontières qui avaient été arbitrairement placées entre d'un côté la nature, d'autre côté la culture, d'un côté les hommes qui avaient une raison et puis d'autre côté les animaux qui n'étaient rien, d'un côté les occidentaux qui avaient la civilisation et de l'autre côté ceux qui n'avaient de pensée que sauvage, c'est pas parce que toutes ces frontières sont remises en question qu'il n'y a plus du tout de sens aux choses et qu'il faut épouser ou s'en remettre au chaos sauvage. Donc voilà, et je rebondirai là-dessus, ce sera mon dernier mot, sur effectivement ce retour d'une pensée que Carl Schmitt en son temps avait exprimée sur le politique défini par l'opposition ami-ennemi, qui est effectivement une catastrophe. Et qui... alors d'abord, l'ennemi ici ne veut pas dire seulement celui à qui je fais la guerre. Là, c'est l'ennemi au sens où il est hors humanité. Hein, au sens où, et bon, chez Carl Schmitt, le politique est défini à partir d'une intensité et seule la guerre donne. Parce que Carl Schmitt est quelqu'un qui déteste la démocratie. Et pourquoi il déteste la démocratie? Parce que pour lui, c'est un monde où le sublime et l'héroïsme sont plus possibles. C'est-à-dire qu'il est comme ces jeunes nihilistes allemands dont parle Léo Strauss dans un texte magnifique qu'il faut relire des années 40 où il dit que ce sont des personnes qui au départ n'étaient pas nazis qu'ils devinrent et qui surtout ne supportaient pas un monde bâti seulement par le matérialisme qu'ils appellent bolchevisme culturel et par le fait que justement c'est un monde où il n'y a plus de sublime et de sacrifice possible. Et comme devant eux ils n'avaient que des personnes qui défendaient de manière défensive et poussiéreuse des idées de morale, etc., eh bien, ils ne trouvèrent aucune réponse articulée à leur révolte inarticulée. Donc la question, c'est qu'il peut y avoir une révolte, mais il faut proposer quelque chose pour mettre à la place d'un monde qui disparaît. Et je crois que ça, c'est un petit peu le travail que nous faisons, que nous essayons de faire, dont on nous reproche souvent qu'il est un peu compliqué, mais comment faire, hein ? Donc, cette articulation, cette proposition d'institution, mais aussi d'une redéfinition peut-être de ce qui fait commun, peut-être de ce qui permet de dessiner un autre humanisme, un autre universalisme, afin de proposer une réponse articulée à cette révolte légitime et à cette déstabilisation légitime et souhaitable. Car qui voudrait revenir à un monde où seul l'Occident et l'homme blanc diraient la vérité aux autres? Donc je crois que voilà. Mais évidemment, le problème, c'est qu'il faut entendre ces constructions sophistiquées qui proposent autre chose et articuler dans un monde où tout bouge et où tout le monde est dans le zapping. Et il faut l'entendre et il faut aussi le mettre en acte. Il faut que ce soit une pensée en acte, vivante. Et ça, évidemment, c'est une autre paire de manches.
Et en quoi l'histoire telle que vous la concevez, vous, Patrick Boucheron, peut permettre justement d'apporter cette réponse articulée?
C'est difficile parce qu'à vous entendre, effectivement, on oscille sans cesse entre le réenchantement. On se dit, bon, quand même, il va falloir bien s'y mettre et au fond l'époque est dangereuse mais elle est passionnante, et puis le découragement. Bon, on peut dire quand même que l'écart n'a peut-être jamais été si fort entre le besoin de complexité et la tentation de la simplicité dans le discours politique, c'est-à-dire que comme vous le disiez, on a quand même là pour l'instant aujourd'hui des propositions idéologiques qui sont quand même très très loin, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe centrale, et tout ce mouvement très très puissant. Pourquoi on parle de Carl Schmitt? Pourquoi on relit Stefan Zweig? Pourquoi on se souvient que Hannah Arendt a dit bien avant, au fond, qu'on ne puisse le comprendre, que le réfugié était la grande figure du XXe siècle? Eh bien, parce que d'une certaine manière, on n'est pas si démuni que ça du point de vue intellectuel par rapport au monde qui vient. Parce que oui, évidemment, tout ce qui... on parlait d'un outillage qui, mental qui était inapproprié, mais en même temps, il y a aussi, d'une certaine manière, un usage, j'allais dire, presque prophétique, en fait, des grandes pensées historiques qui peuvent se réactiver puissamment, et même les Lumières. Mmh. Et même les Lumières, mmh. C'est ça qui est, évidemment, quelque chose qui nous permet... quand même, de nous raccrocher à l'histoire et à l'histoire malgré tout, sur cette question de l'universel en un mot, comment dire, c'est un des effets pernicieux et paradoxaux de l'européocentrisme que de réserver à la seule Europe le fait d'universaliser son point de vue particulier et de se croire au centre du monde. Il n'y a pas une civilisation qui n'ait développé un universalisme étroit, serré, sur ses propres intérêts et sa propre vision du monde. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, cette intensité de la prise de conscience d'un monde comme communauté de destin et de danger nous oblige. Et nous oblige, de fait, comme jamais aucune époque, au fond, je crois, ne l'a aussi urgemment appelé, à considérer l'écart entre ce que vous appelez l'un et l'autre le court-termisme et l'exigence, effectivement, d'une pensée à plus long terme. Mais enfin, quand même, il faut aussi dire, je ne sais pas, peut-être qu'un migrant n'a pas cette idée, mais enfin, c'est difficile aussi pour un dirigeant aujourd'hui de prendre des décisions écologiques, par exemple, ou sur la crise des réfugiés. On ne devrait pas dire crise des réfugiés. En réalité, les réfugiés sont la victime de la crise de l'Europe. Bon. Mais prendre des décisions qui, aussi évidemment et immédiatement, va à l'encontre de ses intérêts électoraux directs.
Camille Grand, d'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez de cette phrase aussi, cette phrase de Raymond Aron, en disant qu'elle n'était pas totalement adaptée. Hein, il est nécessaire d'élever une barrière entre son intelligence et son humanité. En même temps, c'est intéressant parce que vous avez fait plusieurs tribunes dans différents journaux pour dire qu'il fallait faire attention, que les budgets militaires partout dans le monde, dans ce monde en mouvement, une chose qui est en mouvement, c'est les budgets militaires qui ont tendance à exploser un peu partout dans le monde. Et vous disiez, attention, en France, en Europe, on n'est pas du tout à la hauteur, on a le risque d'une indigence stratégique, vous étiez dans une alerte. Donc, quelque part, vous-même, où est-ce que vous mettez la barrière entre votre intelligence et votre humanité quand vous plaidez un peu partout pour un accroissement du budget militaire européen ?
Moi, je crois qu'il faut reconnaître le monde tel qu'il est. C'est-à-dire que, et c'est là que j'ai peut-être un désaccord sur la question de l'ennemi. L'ennemi, évidemment, est une figure qu'on peut inventer, mais l'ennemi est aussi une figure qui peut se déclarer. Moi, j'ai eu des débats intéressants avec des personnalités, par exemple, en Turquie, qui ne sont pas des soldats perdus de l'islamisme radical. Je pense à un conseiller d'Erdogan qui m'a expliqué très tranquillement que nous étions rentrés dans l'âge post-lumière, dans l'âge post-séculaire, et que c'était à nous de nous habituer à ce nouveau monde, et que c'était comme ça et pas autrement. Et qu'on était en quelque sorte un petit peu, c'est nous qui étions en retard sur un monde différent. Ça, c'est la variante, on va dire, intellectuelle, mais quand on rentre dans un mouvement comme Daesh, il est clairement dans une posture qui est d'aller contre, finalement, tout ce qu'on essaye de porter, tout le projet européen, le projet des Lumières, etc. C'est-à-dire qu'il y a la volonté de renverser la table, de revenir à, sans doute, un islam pur rêvé, hein, qui a peu à voir avec l'histoire du monde musulman, mais qui est dans une logique de combat. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit regarder en face. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé pas inintéressant la réflexion de Jean-Yves Le Drian, à laquelle vous faisiez référence dans son...
Oui, c'est un livre intéressant qui parle au CERF, aux éditions du CERF.
Voilà. Et qu'un ministre de la Défense s'interroge sur cette figure de l'ennemi aujourd'hui me semble nécessaire. Et c'est justement peut-être là qu'il y a cette étape entre le temps long et le temps court, et ce type de pause est peut-être salutaire. La deuxième chose, c'est qu'on a, à l'échelle globale, des pays comme la Russie qui ont triplé leur budget militaire dans les 15 dernières années et qui ont entrepris, fort de ces nouvelles capacités militaires, de mettre en cause les frontières en Europe, d'ouvrir finalement l'héritage non seulement de l'après-guerre froide, mais même de la Seconde Guerre mondiale en termes d'équilibre. Et face à ça, l'Europe post-moderne, post-conflit, etc., redécouvre avec un peu de stupeur que le reste du monde ne pense pas nécessairement comme elle. Et là, elle est obligée en quelque sorte de... Et c'est là que moi je plaide pour qu'on prenne ça au sérieux, parce que sinon on est
en quelque sorte désarmés à la fois intellectuellement et concrètement face à ce type de remise en cause, non pas d'un ordre qui nous est favorable, mais d'un ordre qui repose peu ou prou sur les valeurs qui fondent nos sociétés. Et c'est ça, je crois, le double défi, c'est-à-dire qu'on ne doit pas renoncer à ces valeurs dans la lutte contre le terrorisme, c'est la tension qui a traversé toute cette affaire de guerre contre le terrorisme à l'intérieur, et en même temps, ne pas être non plus naïf face à des adversaires qui voient dans notre libéralisme au sens philosophique et dans dans l'ouverture de nos sociétés le signe d'une faiblesse dont il conviendrait de profiter pour les bousculer davantage. Et c'est là qu'on rejoint le débat, me semble-t-il, avec la question démocratique, c'est-à-dire que cette demande de protection de nos citoyens qui s'exprime sur les questions face à des crises immédiates, mal comprises, migratoires, etc., est un écho, me semble-t-il, d'une demande de protection aussi face aux crises géopolitiques. Et de ce point de vue-là, moi, je crois être assez cohérent quand je dis qu'on doit regarder ces crises avec l'humanité nécessaire. Il ne s'agit pas de bombarder les réfugiés pour qu'ils n'entrent pas en Europe, évidemment. Mais en même temps, ne pas être dans une forme de naïveté stratégique consistant à ne pas voir qu'un certain nombre d'acteurs sur la scène internationale ont fait le choix de se positionner comme des ennemis, le cas échéant, de la France ou de l'Europe, mais plus généralement d'un ordre fondé sur le droit, et ainsi de suite. Je prends un dernier exemple récent. Une cour arbitrale vient de donner tort à la Chine dans ses relations avec les Philippines sur des affaires d'îlots en mer de Chine. La Chine a dit « je m'en fiche, je suis la Chine et ça m'est indifférent ». De manière intéressante, j'apprenais aujourd'hui qu'un certain nombre de pays d'Europe centrale qui visent des investissements chinois sans doute et qui sont d'ailleurs ceux aussi qui sont souvent critiques des affaires de l'Europe telle qu'elle va, refusent que l'Europe dise « nous, on préfère le droit » à la force dans ce différent territorial maritime en mer de Chine. Donc là, on voit que tout ça se rejoint et qu'on peut être cohérent entre ses valeurs, ses intérêts dans la nécessité de les défendre, parfois par la force.
Cette question de la force, du coup de force et de la violence, elle s'impose de façon très, très brutale, notamment aux intellectuels. Patrick Boucheron, vous citiez Stefan Zweig tout à l'heure. Il y a quelque chose de spécifique en fait, dans la relation des intellectuels à cette question de la violence et à l'incapacité à parfois à la prendre en compte ou à l'affronter avec les outils nécessaires. Vous êtes l'un des grands représentants de ce qu'on appelle l'histoire connectée, où on a parlé d'histoire globale, d'histoire mondiale, etc. C'est une histoire qui essaye, et c'est très très beau, de prendre en compte justement le point de vue des autres dont parlait Camille Grand à l'instant, de prendre en compte, de faire une histoire décentrée qui serait pas toujours vue depuis l'Europe, depuis la France, depuis l'Occident, etc. etc. Et en même temps, vous voyez, quand on écoute Camille Grand, on se dit, bah oui, le point de vue des autres, il impose aussi cette question de l'ennemi. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, il n'y a pas grand-chose de neuf sous le soleil, vous l'avez dit d'entrée de jeu pendant cette table ronde. Mais en fait, il se passe des choses nouvelles, réellement. Orlando, c'est nouveau, Orlando, si on en parle. Voilà, des gens qui rentrent dans une boîte de nuit et qui tuent des homosexuels les uns après les autres parce que homosexuels. Le Bataclan, c'est nouveau. Charlie Hebdo, c'est nouveau. C'est-à-dire qui, même pendant la guerre d'Algérie, moi j'y pensais l'autre jour, même pendant la guerre d'Algérie, quelle est la force? Personne, même l'OS n'a jamais fait ça. Personne n'est rentré dans un journal pour liquider une rédaction dans son entièreté. Donc il y a quand même des choses nouvelles qui adviennent, qui s'imposent violemment, et face à ça, que peuvent les femmes et les hommes d'idées pour comprendre ce monde en mouvement?
Et vous posez la question déplaisante, c'est-à-dire la bonne question, au fond. Bien sûr. Je ne crois pas que le rôle d'un historien ou d'une intellectuelle est de ramener la brutalité de l'inouï ou de l'inédit à une sorte de régularité ronronnante et consolante. Mais vous inquiétez pas. Non, je suis pas absolument persuadé que l'histoire soit un gage de lucidité. Je ne connais pas beaucoup, au fond, d'historiens dont la science du passé leur est servi, à part Marc Bloch, mais qui est un rôle, enfin, voilà, qui est un personnage proprement héroïque. Mais en quoi l'est-il? À un moment où, effectivement, il décide que son savoir médiéviste, qu'il l'était dans le civil, médiéviste, ne lui sert à rien et il va le mettre de côté. Voilà. Lorsque, effectivement, l'année 2015, moi, elle m'a, voilà, vous l'avez dit avec un écrivain, Mathieu Riboulet, elle m'a appelé, mais pas comme historien. C'est-à-dire que j'ai voulu faire mon métier d'homme. J'ai écrit un livre qui ne convoque pas l'histoire. Parce qu'il s'agissait pas à ce moment-là, parce que là, je ne trouve aucune consolation dans l'histoire.
Est-ce que c'est pas un des grands problèmes de nos rencontres, justement, là, voyez, que vous soulignez? Parce qu'on est en train d'essayer de penser le monde en mouvement, le débat intellectuel en général depuis le début de la semaine. Et là, vous nous dites, oui, mais quand on affronte quelque chose d'extrêmement concret et de réel, qu'on se prend en pleine figure, en fait, à ce moment-là, l'historien pose la plume et dit, je vais rédiger un livre, mais en tant qu'homme et plus en tant qu'historien.
Oui, c'est parce que peut-être que la barrière dont vous parliez entre l'humanité et l'intelligence, c'est celle-là même que la haine met à bas. Hein? C'est-à-dire que là, on est désarmé, mais au sens moral. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas ce qu'en pense la philosophe, mais il me semble que en tout cas, du point de vue au regard de l'histoire ou de l'histoire des historiens, évidemment, cette alerte que l'un et l'autre vous avez exprimée, ne sommes-nous pas naïfs, angéliques? Est-ce que l'histoire connectée, ça nous fait du bien, c'est consolant? Mais est-ce que c'est pas simplement faute de mieux se dire bon, vous voyez, ça circule, etc. Je ne crois pas. Je pense que si effectivement il y a un intérêt à faire, à élargir au-delà du cadre national la compréhension de ce qui nous arrive, c'est pas pour nous rassurer, c'est pas rassurant. Je pense que l'histoire du monde, ce n'est pas simplement l'histoire du métissage, de la connexion, etc. C'est l'histoire de l'antimondialisation, c'est l'histoire de l'incroyable inventivité avec laquelle les sociétés humaines produisent de l'agressivité avec de la distance et de l'indifférence avec des différences. C'est-à-dire cette formidable puissance humaine à produire de l'aveuglement face à la misère, surtout lorsqu'elle est là, à nos portes.
Corinne Pelluchon, comment est-ce que vous vous gérez, comment est-ce que vous réfléchissez à cette confrontation entre une nécessaire lucidité et peut-être une forme de naïveté, ou en tout cas d'idéalisme? Bon, naïveté, oui, c'est sans doute un peu trop péjoratif, mais enfin, en tout cas, voilà, comment est-ce que vous gérez cette contradiction-là?
Alors, d'abord, moi, je rappellerai ce que dit Aristote du courage, c'est que le courage ne supprime pas la peur, au contraire, il la maintient, et il essaie. On essaie quand même de la traverser, en tout cas. Par rapport à la violence, aux violences extrêmes, puisqu'il s'agit de ça, je crois aussi qu'il faut accepter de se laisser transformer et déplacer par cela. Et il est clair qu'aujourd'hui, il me semble impossible de philosopher dans son cabinet en parlant de ce qu'a dit Plotin, Platon, de manière entre soi, entre gens bien éduqués. Et que, en ce sens-là, la question de l'engagement devient centrale. Un engagement toujours particulier et paradoxal quand c'est celui d'un intellectuel, en particulier d'un philosophe qui n'est pas un politique, qui a toujours cette distance par rapport à l'idéologie. Néanmoins, il y a une nécessité de philosopher, en tout cas ce que disait Hegel, de concevoir le réel, et pas seulement les idées. Maintenant, moi, je prendrai l'exemple de Kant. Il y a cette phrase, quand on veut s'orienter, et comment s'orienter dans la pensée, dans l'action. Il y a Kant qui a une sorte de triade, qui est très intéressante, je pense. Il dit, que puis-je savoir, que dois-je faire, que m'est-il permis d'espérer? Que puis-je savoir? Qu'est-ce que le savoir scientifique, anthropologique, éthologique peut m'apprendre? Et comment je suis transformée par ce savoir, dans les neurosciences, dans l'éthologie, sur les animaux? Ça transforme, ça libère aussi, et ça enlève beaucoup de naïveté. Comment aussi, que dois-je faire individuellement, justement, en étant à ma place, à mon niveau? Et avec l'idée aussi que la responsabilité, eh bien, excède nos capacités de représentation. Et ça, c'est vraiment contemporain. Quand Michel Serres dit, il dit, il faut entendre éclater dans ses livres la bombe atomique, ou bien Jaspers philosophait à l'ombre de la bombe. Moi, je philosophe aussi à la lumière de ce que je considère comme un traumatisme, que la violence infligée aux animaux, mais ce qu'il y a aussi de violences extrêmes dans notre monde, dont je disais tout à l'heure aussi que finalement, beaucoup, il y a une manière indécente de vivre ces injustices-là, hein, dans notre monde-là, décomplexé. Hein. Donc ça, en prendre la mesure, se laisser transformer et arriver justement, et c'est là qu'on est, la rationalité est saisie par cette violence ressentie. Il n'y a pas de frontière ici entre une rationalité et une sensibilité. Et enfin, que m'est-il permis d'espérer ? On se rappelle que Kant disait dans Projet ou esquisse philosophique pour un projet perpétuel, pardon, 1795, il dit « il ne doit pas y avoir de guerre ». C'est un veto de la raison pratique. Bien sûr, Kant sait qu'il y aura des guerres, il sait que les humains sont divisés, mais il dit « c'est un principe à partir duquel on peut organiser l'existence et les institutions ». C'est-à-dire que quand on sait ce qu'on veut, plutôt ce qu'on ne veut pas, ce que je ne dois pas laisser passer, alors on se donne les moyens d'organiser, soit individuellement, à sa place. Alors nous, on fait un métier de penser, d'écrire, voilà, avec nos mots qui peuvent frapper aussi à différents niveaux, le long terme mais aussi le court terme, puisqu'aujourd'hui nous faisons les deux. C'est difficile d'ailleurs, on fait beaucoup de choses, hein, on est fatigué. Hein. Non mais c'est vrai. Bon, mais, et ensuite, que m'est-il permis d'espérer ? Comment et donner de l'espoir, c'est pas être des bisounours. C'est aussi frapper et aussi laisser chacun prendre la mesure du mal et en même temps de ce qu'il veut pas faire. À partir de ça, on construit. C'est pour ça que quand on dit c'est pas facile pour les politiques de décider au niveau écologique, si, hein, si, faut le décider, le vouloir. Par exemple, la question chanter les bienfaits de la COP21 et en même temps dire le nucléaire, on y va, ça me semble une contradiction manifeste et une politique qui est dans la contradiction. Enfin, je vous dirais que la plus petite chose qu'on puisse demander à des politiques, c'est d'avoir des choses cohérentes. Pour ça, faut une vision derrière. Sinon, ça vaut rien.
Camille Grand.
Je crois que la vision est effectivement essentielle. Sur un point, moi, par profession, en m'occupant des affaires stratégiques, je suis à la fois pessimiste, obsédé par le côté tragique du monde. J'ai cette impression que peut-être le 11 septembre, sans doute, que les événements s'enchaînent et s'enchaînent avec une gravité. C'est pas que ça va crescendo, mais c'est qu'on voit s'effondrer des pans successifs de nos représentations, de nos schémas de gestion des choses. Et de ce point de vue-là, pour prendre le 11 septembre, c'est évident, le Brexit, moi, m'a frappé de manière très profonde parce que c'est la première fois depuis 1946 que la construction européenne recule. Pas qu'elle marque une pause parce qu'il y a un référendum qui marche pas, mais on continue avec les traités tels qu'ils existent. Et ça, je pense qu'il faut prendre la mesure de ça. Et c'est là que la question de la vision des intellectuels, la vision des politiques, qui est pas forcément la même d'ailleurs, est indispensable. Et c'est là que, moi j'ai eu dans ma vie professionnelle l'occasion d'être un praticien de ces choses-là, le fait de prendre la mesure du tragique des événements et d'essayer, bon an, mal an, parfois difficilement d'y répondre, éventuellement de prendre des risques dans cette réponse, et quelque chose qui est, me semble-t-il, impératif dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. On ne peut pas se contenter de regarder les choses passer et de pratiquer une sorte de politique de l'autruche en attendant que ça se passe parce que ça va aller mieux. La réalité, c'est que ça ne va pas aller mieux et que donc on doit agir sur ces différents fronts. Et c'est ça le défi, en réalité, aujourd'hui, face à ce monde en mouvement.
Eh bien, merci beaucoup, Camille Grand, Corinne Pelluchon et Patrick Boucheron. S'orienter dans un monde en mouvement, c'était donc le thème de cette discussion. Aujourd'hui, un grand merci aux équipes du rectorat ainsi qu'aux équipes techniques de Radio France. Ces rencontres sont réalisées par Nathalie Salle et coordonnées par Mathieu Maraudin. Nous nous retrouvons demain pour réinventer la politique. Il y aura, comme chaque jour, des liens avec les discussions précédentes. Nous serons en compagnie de Dominique Schnapper, Thierry Pêche et Manuel Cervera-Marzal. À demain.